Donc, tout d'abord, je vais vous donner une présentation générale un peu du bulgare pour pouvoir le situer un peu par rapport à d'autres langues que vous connaissez certainement. Je vais évoquer quelques éléments d'écriture et de phonologie. Et je conclurai par des éléments de grammaire sur lesquels je vais m'attarder davantage et que vous allez trouver sur la fiche. Mais bon, comme la fiche est un peu dense, vous verrez un peu mieux, j'espère, ici sur la diapo. Et après, bien sûr, si vous avez des questions, je vais bien y revenir sur les points qui ne seront pas clairs ou évoqués. Alors, oui, et une petite cloche pour attirer votre attention justement sur les différences entre le français et le bulgare et les difficultés que des bulgarophones pourront rencontrer en apprenant le français. Donc cette petite cloche, vous la verrez à plusieurs endroits sur les affiches, donc c'est un peu pour attirer aussi votre attention. Bien, le bulgare, c'est la langue officielle de la République de la Bulgarie, avec 7,5 millions de locuteurs, qui ne se trouve pas essentiellement à Sofia, mais comme c'est la capitale, il y a bien une concentration de locuteurs dans la ville, dans cette ville. Et aussi, des locuteurs, on retrouve dans les pays voisins, donc la Serbie, la Macédoine, la Grèce et la Turquie, qui attirent beaucoup pour des raisons, on va dire, non seulement de proximité, mais aussi en Grèce pour des raisons de réalisation professionnelle, et en Turquie pour des raisons plutôt familiales, parce que il y a une grande communauté de turcophones qui vit en Bulgarie et qui est partagée entre ces deux pays. Donc il y a pas mal de va-et-vient dans les deux sens. Bien sûr aussi aux frontières de la Roumanie, tout autour de Danube, et au-delà de la mer Noire, en Ukraine et en Moldavie, on trouvera aussi des personnes qui parlent le bulgare, des bulgarophones. Et bien sûr, une communauté ailleurs dans le monde, le plus concentrée en Europe d'Ouest et en Amérique du Nord, donc l'Amérique et le Canada. Le bulgare, c'est une langue slave méridionale qui fait partie de la famille des langues indo-européennes. Et ici, je vous ai donné la façon dont on présente en général les langues, c'est une façon d'arbre, mais on peut inverser. Et comme vous pouvez voir, donc le bulgare fait partie de ce sous-groupe des langues slaves, donc les langues slaves méridionales, ce qui veut dire que contrairement à une idée un peu répandue que le bulgare est la langue slave la plus proche du bulgare, c'est le russe, c'est tout à fait faux. Ce serait plutôt le macédonien, le serbo-croate, voire le slovène qui est un peu plus loin, mais voilà, ce n'est pas le russe. Donc si vous voulez situer un peu cette langue, cherchez-la proche de ses voisins, géographiquement aussi. D'autre part, la langue bulgare fait partie aussi de l'aire linguistique balkanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Balkanique, c'est un peu un mot général qui renvoie à la géographie. C'est-à-dire que c'est une langue qui, malgré qu'elle n'est pas en filiation directe, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de la même famille ou se branche de ces langues, elle va avoir des traits linguistiques communs avec ces langues voisines qui font partie de la péninsule balkanique, le roumain, le serbo-croate, le macédonien, l'albanais, le grec, certains des dialectes turcs parlés dans les Balkans et le romani aussi parlé dans les Balkans. Ces traits communs qui sont appelés des balkanismes, vous allez les retrouver. Et parmi ces traits communs, ce qui sont importants peut-être pour vos élèves, ce seront le manque d'infinitif. Donc ces langues ne connaissent pas l'infinitif, ou ils l'ont eu et ils l'ont perdu de leur évolution. Et aussi la présence d'un article défini, mais qui est postposé, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas au début du mot comme en français, mais va être accolé après le mot. Donc ce sont des traits communs à ces langues des Balkans, et donc peut-être à cause de ces traits communs, vous allez retrouver des difficultés similaires parmi des locuteurs de ces langues apprenant le français. Maintenant, le bulgare, comme tous les pays slaves, des pays orthodoxes, s'écrit au moyen de l'alphabet cyrillique, à la différence des pays slaves, mais qui sont des catholiques ou des protestants, où on écrit plutôt en alphabet latin. Et donc, vous voyez, je vous ai fait un petit un petit inventaire de l'alphabet qui est constitué de 30 lettres. On appelle bon, Kirillitsa, ce que vous voyez en rouge, donc le cyrillique. Bon, déjà, pour vous, ce n'est pas difficile de repérer certaines lettres et de voir qu'il y a des similarités entre l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique. Et c'est sur ces similarités que je voudrais attirer votre attention, tout simplement parce que si on peut deviner que le A, le E, le O notent des sons, je dirais, presque identiques ou similaires, il y a bien des lettres qui notent des sons différents, et c'est ce qui peut prêter à des confusions au niveau de l'écriture donc pour les apprenants. Il s'agirait notamment de V, vous voyez, qui ressemble au B de l'alphabet latin. Le D, ici, on ne le voit pas très bien, mais en manuscrit, le D pourra être noté comme un G de l'alphabet latin, c'est-à-dire que le petit G pourra représenter le D. Le I, que les apprenants pourront confondre avec le U, donc notera toujours le son I. Le N, donc minuscule ou majuscule, qu'on pourra rapprocher au H. Le P et le R, donc le P avec le N éventuellement minuscule et le P. Le S, qu'on prononce toujours « ce » et jamais « que », contrairement au français. Le « t » minuscule, qu'on peut confondre avec le « m » minuscule. Le « ou », qui note toujours le son « ou » et pas un « y ». Et le « h », qui est une consonne toujours prononcée, qui est bon, certainement difficile pour des francophones. La difficulté des bulgarophones serait plutôt de ne pas prononcer le H. Donc, ils auront tendance plutôt à chaque fois à dire ce H aspiré. Bien. Alors, quelques différences phonétiques. Une première différence, c'est que le bulgare a un accent mobile, c'est-à-dire que l'accent n'est pas fixe et que on l'apprend, on peut par à l'oral, on peut par cœur. Il n'y a pas une place définie, mais cet accent entraîne des différences de prononciation des voyelles, c'est-à-dire qu'il y aura une différence entre une voyelle accentuée et une voyelle non accentuée. Juste un exemple, dans le mot « mama », le mot pour mère, donc vous avez deux « a ».« Mama », vous entendez bien, il a un accent en bulgare, hein, c'est le premier « a ». Donc ce « a » est bien ouvert, alors que le deuxième, il est beaucoup plus fermé, on dit « réduit », c'est-à-dire il a une réduction vocalique, et les apprenants auront tendance à prononcer des « a » qui ne sont pas traduits par ce « a » un peu plus fermé, voire proche de « e ». Dont Michel a parlé tout à l'heure, ce serait pareil pour les « e » comme « bébé », donc le mot pour « bébé ». Donc au lieu d'accentuer les deux, on aura juste le premier très ouvert et le deuxième beaucoup plus fermé. Ce serait le même pour le « o »,« toto », donc le « o » ouvert lorsqu'il est accentué et le « o » fermé lorsqu'il n'est pas accentué. Donc si vous entendez des voyelles fermées, bon, sachez que c'est dû à cette réduction vocalique qui est... disons, influencé, entraîné par l'accent. Et de ce fait, des mots comme « t » dîner, c'est-à-dire un « e » fermé final, accentué du français, pour un bulgarophone, sera intuitivement très contradictoire parce qu'il est accentué et à la fois il est fermé. Donc un bulgare aura tendance à le ouvrir et à le dire « t » dîner. Donc, de l'ouvrir beaucoup. Alors, les nasales, bon, c'est sûr que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, inexistante comme phonème en bulgare, et donc, du coup, les bulgarophones confondront assez facilement les O nasalisés, les A nasalisés. C'est une difficulté vraiment présente. Aussi, disons, l'influence des différences entre le français et le bulgare, gar, qui est un emprunt du français aussi, bon, un bulgarophone pourra très bien prononcer gar, donc en roulant le R. Lav, aussi un mot qui existe en bulgare, avec cette difficulté que le bulgare distingue un L qu'on appelle mou, c'est-à-dire le L comme le français, la, devant les voyelles A et O, mais en bulgare, à cet endroit, il y aura un autre L, celui qui est prononcé juste derrière les dents, mettant la langue juste derrière les dents. Et donc, un bulgarophone aura tendance plutôt à dire « lave ». D'accord ?« Lave ». « Loupe ». « La loupe », ça serait « la loupe » éventuellement. Donc, il aura cette sonorité un peu sous l'influence du bulgare. Une autre difficulté, ou plutôt voilà, prononciation possible, serait due à un autre phénomène qui est une règle pour la langue bulgare, c'est-à-dire l'assourdissement des consonnes sonores en finale, et des mots comme salade, robe, parking vont être prononcés salade, robe, parking. Donc, c'est une influence tout simple de bulgare. Donc, c'est une règle phonologique, encore une fois. Bien. Je vais maintenant passer un peu sur des exemples de grammaire. Et lorsque je vous disais tout à l'heure que le bulgare est plus proche du macédonien et un peu plus éloigné du russe, ben justement, par rapport au système de déclinaison, donc le bulgare n'en a plus. Il a conservé un cas, le cas vocatif, c'est lorsqu'on interpelle quelqu'un, une personne, la plupart du temps, et quelques vestiges de l'accusatif et du datif au niveau des pronoms personnels, comme en français d'ailleurs. Donc, je ne vais pas vous donner des exemples sur ces vestiges, mais juste pour le vocatif, pour attirer votre attention sur le fait que, bon, si vous avez un élève bulgarophone dans la classe et que vous le saluez, bonjour Ivan, vous faites entendre ses camarades l'appeler Ivané. Donc, ce Ivané, ben, c'est le vocatif, tout simplement. C'est juste une forme d'appellation lorsque vous vous adressez à cette personne. Pareil, le mot suivant, tu vas bien Svetla. Svetla, c'est un prénom féminin qui correspond à Claire. En bulgare, ce serait plus naturel d'utiliser le vocatif et de demander Dobre li si Svetle. Donc, encore une fois, le vocatif. Et là, je profite juste pour attirer votre attention sur le mouvement qui accompagne un peu les réponses oui et non à cette question, notamment « Est-ce que tu vas bien ?» Et il vous dit comme ça, ça veut dire « Oui ». Et s'il fait ça, c'est plutôt « Non ». Oui, donc vous avez ça comme mouvement et non avec le froissement du nez, non. Parfois même, on peut émettre un son, on dit non, ça veut dire non, d'accord. Donc ces mouvements de tête sont très déroutants et disons, dans ma famille, on me fait la remarque maintenant quand je rentre en Bulgarie que je fais de mauvais mouvements et que je crée de la confusion. Bien, alors, puisqu'on a parlé à plusieurs reprises des genres, le bulgare en a trois, masculin, féminin et neutre. Ce qui, bien sûr, bon, d'un côté est très bien parce que les bulgarophones sont habitués à cet accord de genre, donc ça ne pose pas de problème. Mais d'un autre côté, bon, il faut désapprendre les genres qu'on connaît et réapprendre les nouveaux, notamment pour des mots qui sont en français masculin, mais en bulgare féminin, et vice-versa, comme le mot grad, par exemple, en bulgare, c'est la ville, donc en bulgare, un nom masculin, en français, féminin. De même pour, disons, des mots comme radio, qui est, vous voyez, je l'ai mis dans la colonne de neutre, café aussi, en bulgare, bon, pour les deux, vous voyez, complètement une autre logique, là où l'est, donc pour un bulgare, c'est très déroutant, parce que bon, il ne retrouve plus la logique, bon, pourquoi radio c'est là, et pourquoi le café c'est le. Donc, alors qu'en bulgare, c'est le neutre. Donc, attirer l'attention sur cette différence, et aussi sur le fait qu'il peut y avoir des emprunts, comme les mots équipe, groupe, programme, mais comme vous le voyez, ils sont rangés dans les colonnes inverses, donc sont des genres différents. L'article défini, je vous l'ai dit déjà, il est postposé, juste pour vous donner quelques exemples, pour voir ce que ça donne. Donc, gradut, la ville pour les noms masculins, ekipat, l'équipe, garata, la gare, grupata, le groupe, deteto, cafeto, donc l'enfant, et le café, ils seront toujours accolés au nom. ce qui fait que bon, pour un bulgarophone, en fait, il est très facile de mettre l'article en français, tout simplement parce que dans son idée, il vient après. Ben, s'il ne vient pas, bon, c'est pas grave. Hein. Donc, c'est assez facile de l'oublier. L'indéfini, l'article indéfini, est couramment rendu par un nom nu. Et on n'a même pas besoin d'utiliser donc un, une ou des. Donc, dans des exemples de ce genre, je lis un livre, acheta knjiga. Donc, vous voyez, c'est juste, je lis livre. On n'a pas besoin de rajouter l'indéfini. Pareil, un autre exemple, tja ima chimikalki. Et là, stylo bille, donc pas besoin d'indéfini. Donc, attirer encore une fois l'attention sur cette particularité et nécessité d'employer à chaque fois l'indéfini en français. Le bulgare n'emploie pas d'article partitif. Bon, c'est très simple pour ceux qui apprennent le bulgare, mais pour ceux qui apprennent le français, pas tout à fait. Donc, Pavel mange de la salade ou des tomates. En bulgare, bon, vous direz tout simplement Pavel mange. Pavel y a des salades, Pavel y a des domati. Et je peux vous dire que bon, c'est j'ai encore dans la tête des exemples de l'époque où j'apprenais le français, où l'enseignant nous faisait répéter bon, qu'est-ce qu'il y a dans une bouteille d'huile? De l'huile. Qu'est-ce qu'il y a dans une bouteille de boîte d'allumettes? Des allumettes. Et donc, c'est vraiment des cantines dans notre tête pour pouvoir vraiment intégrer cet emploi de l'article partitif. Oui, juste une petite remarque aussi. Très facile à mélanger les deux concepts, le partitif avec la préposition suivie d'un article défini. Donc, attirez bien l'attention sur le fait que bon, le prix de la salade, ben, c'est pas le partitif, hein, même si on a les mêmes formes de la préposition et de l'article hein, dans la phrase. Le bulgare, bon, qu'on peut s'y attendre, les adjectifs ont des formes distinctes pour les trois genres. Donc, on a dit masculin, féminin et neutre. Ce qui, bien sûr, n'influera pas sur l'apprentissage des adjectifs en français. La difficulté, bien sûr, consiste plutôt dans la maîtrise des adjectifs qui ont deux formes en masculin pour le français, comme nouveau, nouvelle, beau, belle, etc. Donc, ce n'est pas d'équivalent en bulgare. Vous voyez ici, la seule, disons, il s'agit juste en bulgare de rajouter une terminaison pour changer de genre. Donc, star, most, vipon, stara, kola, juste le A pour changer l'adjectif, staro, chilichte, et c'est assez régulier au niveau de la morphologie. Ce qui pourrait être difficile, c'est plutôt le pluriel parce que, contrairement au français, donc en bulgare, on a une forme unique. On ne distingue pas le genre. Et c'est sur quoi serait bien sûr pertinent d'attirer l'attention qu'en pluriel, en français, on a bien deux formes, donc grand et grande, et non pas juste la forme de masculin mis au pluriel. Bien, dans le groupe d'adjectifs, on suit exactement la même logique comme pour les noms. L'article sera collé, que ce soit sur l'adjectif ou, si vous avez plusieurs éléments dans le groupe nominal, sur le premier élément, comme en français, les premières années, etc. Donc, vous allez avoir l'adjectif au tout début, juste pour vous donner des exemples pour entendre un peu. Stari at most, donc le vieux pont, nova ta godina, staro to kino. Donc, ce seront des groupes avec des adjectifs définis. Pareil pour le pluriel, avec une seule forme, encore une fois. Ce serait juste l'article, encore une fois, mis sur l'adjectif à la fin. Là où les choses pourraient être difficiles pour un bulgarophone, c'est notamment la maîtrise pardon, des degrés des adjectifs et des adverbes, tout simplement parce qu'en bulgare, on a deux particules spécifiques, bien distinct, même au niveau sonore. Donc, vous voyez, golam, qui veut dire grand, po golam, donc plus grand, et naï golam, le plus grand. Pour un bulgare, quand il voit plus le plus, pour lui, bon, c'est la même chose, ça, il n'y a pas de différence. Donc, attirez bien l'attention sur ce fait que, bon, il faut bien mettre à l'article. Et donc, même si ça paraît similaire, ben, ça exprime vraiment des degrés différents. quelques mots sur la syntaxe, pas très différente de français. Donc, l'ordre est sujet, verbe, objet. Donc, vous voyez, les Ivanov partent à la mer. On a exactement la même construction. Ivanov visaminavat namore. Ce qui pourrait être difficile, en particulier bon, dans cet exemple, mais que j'ai choisi un peu exprès, c'est l'emploi des articles avec les noms propres, que ce soit les noms de famille ou les noms des pays, la France, le Brésil. C'est des noms qui ne sont jamais articulés en bulgare, et donc les élèves pourront très facilement omettre ces articles. Donc, encore une fois, attirer l'attention sur cet emploi. Le pronom sujet peut être omis, tout simplement parce que toutes les formes verbales donc, ont des terminaisons spécifiques, et donc chaque forme correspond à une personne, donc on n'a pas besoin d'enlever l'ambiguïté par l'emploi de pronoms. Donc dans une phrase comme « Que fait Boris ?»« Il arrive à la gare », en bulgare, on dira tout simplement « Kakvo pravi Boris pristiga na garata » sans employer le pronom personnel. Une seule forme pour les pronoms personnels, toujours dans cette ligne guidée, c'est-à-dire qu'en français, pour mettre l'accent donc, sur moi, le sujet, moi je sais nager, en bulgare, on n'aura pas de façon de l'exprimer, on utilisera juste le pronom, peut-être appuyé un peu par l'intonation ou séparé par un espace de pause pour marquer que bon, voilà, il y a cette emphase de mise en avant du sujet, mais pas un pronom spécifique. Exprimer donc cet emploi. Et juste pour vérifier, mais je suis sûre que vous me suivez, donc vous voyez dans cette phrase, je sais que j'ai glosé, donc as naya de plouvan, je sais que je nage. Un bon exemple de quoi? Vous avez deux verbes qui sont conjugués pour le bulgare. Il n'y a pas d'infinitif, exactement. Donc, vous avez les deux verbes conjugués. Donc, si vous voyez un deuxième verbe qui, en français, doit être un infinitif et qu'il est conjugué, eh bien, c'est bien dû à cette manque d'infinitif en bulgare. Donc, le pronom sujet indéfini « on », ça, je pense qu'il y a beaucoup de langues, pour ne pas dire pratiquement toutes les langues qui n'ont pas l'emploi de « on », donc n'existe pas en bulgare et on le récupère par d'autres constructions de type pronominal, par exemple « tuk se prodavat bileti », ici « se vendent des billets », mais en pluriel. Donc, attirez bien l'attention sur ça, que bon, il peut y avoir des équivalences, mais c'est juste au niveau de verbes, bon, peut-être ce ne seront pas les mêmes personnes qui vont être utilisées pour le français ou pour le bulgare, pour cette construction indéfinie. Et bien sûr, les favoris on et i, pas d'équivalent. Encore une fois, le bulgare va trouver d'autres moyens pour exprimer ces deux pronoms, tia ou tiva namore, tia ou tiva tam, donc on va utiliser plutôt un adverbe de lieu. Encore une fois, ces pronoms sont très difficiles à maîtriser pour les bulgarophones. La place des compléments peut être inversée, les compléments directs et indirects. Et dans des exemples de ce type, je le lui ai donné. Bon, en bulgare, ce serait vraiment le contraire, as mogodado, c'est-à-dire l'objet indirect va précéder le complément direct. On arrive à la dernière partie, qui est pour le bulgare, on dirait la plus complexe, mais qui peut, oui, je termine, il n'y a pas de problème, peut entraîner des difficultés, tout simplement parce que le bulgare, comme je vous ai mis, est une langue très très riche en termes de formes verbales. Elle a deux aspects, imperfectif et perfectif, 9 tons, 2 voix actives et passives et 4 modes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste pour vous dire que, par exemple, pour ce qui va correspondre au passé composé, on aura l'aoriste et le parfait, parfois même le plus que parfait. Pour le futur antérieur, futur dans le passé, donc on aura aussi pas vraiment d'équivalence exacte. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de concordance des temps en bulgare et que bon, dans une phrase, dans des propositions subordonnées, vous pouvez vous retrouver avec des verbes tout simplement au présent, conjugués au présent ou au futur. Donc c'est dû à cette particularité du bulgare qui ne fait pas de concordance des temps. Juste ce que c'est l'aspect, en fait, l'aspect du verbe. Tous les verbes dans les langues slaves se présentent sous deux formes, une forme qu'on appelle imperfective et une forme perfective. La forme imperfective, en général, est utilisée pour des actions qui sont en cours, qui sont répétitives, qui sont habituelles. Une action en présent, comme dans cet exemple, elle achète des livres, ça sera exprimé par l'imperfectif. Au futur, c'est là où les choses peuvent être plus complexes, c'est-à-dire qu'on aura le choix entre une action qui sera ponctuelle au futur, par exemple demain elle achètera des livres une seule fois, et elle achètera des livres tout au long de la semaine prochaine, ou chaque jour de la semaine prochaine, ou tout au long de la journée, c'est-à-dire plusieurs fois. Et dans ces deux cas, le bulgare utilisera donc d'un côté la forme imperfective et dans l'autre cas la forme perfective. Donc c'est des choses qui n'existent pas en français, mais que les apprenants pourront chercher à récupérer par l'emploi des adverbes, justement, donc des précisions s'ils ajoutent. Ça veut dire que bon, il a cette notion qui leur manque. L'aoriste, encore une fois, c'est plutôt la difficulté du français qui a ces deux temps et qui correspondent à un seul temps en bulgare, donc on ne distingue pas entre le passé composé et le passé simple. Donc dans des exemples, il m'a donné de l'argent et le roi donna des ordres, on aura la même forme en bulgare. Ce serait pareil pour l'emploi de futur dans le passé. Bon, en français, on pourra très bien dire, bon, j'allais lui dire pour l'examen, qui note bien sûr une action qu'on aurait éventuellement fait dans le passé, une action future, et aussi donc le conditionnel passé pour le bulgare, ce serait toujours la même forme du futur dans le passé. Un mode spécifique, c'est le médiatif, encore une fois, inexistant en français. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mode de discours rapporté, c'est-à-dire que si je ne suis pas témoin d'un événement, ou si je n'ai pas entendu ou vu des choses, des événements de moi-même, j'utiliserai ce mode de discours rapporté pour le signaler comme information. Donc, un apprenant pourra se trouver très, très dérouté par le manque d'emploi de ce mode et pourra essayer de récupérer ces significations avec des phrases de type « il paraît que »,« il aurait fait que », etc., donc avec des formes de conditionnel. Donc si vous voyez dans des copies ou dans le discours les élèves dire « il paraît que », »,« on dit que », »,« il paraît que », »,« il paraît que », bon, sachez que c'est cette notion de « moi, j'étais pas témoin, j'ai pas vu, je ne sais pas, mais on me l'a dit, je l'ai entendu, donc j'ai besoin de l'exprimer, de le souligner, donc c'est pour ça que j'y insiste. Voilà, j'ai certainement d'autres choses que je voudrais évoquer, mais pour l'instant, je vous remercie de votre attention et je serai prête à répondre à vos questions. Merci.
Est-ce qu'il y a une question,
Karine?
Très brève question. Ouais. Puisqu'il n'y a pas d'infinitif, sous quelle forme sont présentés les verbes, par exemple, dans le dictionnaire?
Mais celle que vous avez vue dans le petit exemple, donc ça serait la première personne du singulier du présent, donc des deux verbes, en commençant par l'imperfectif et le perfectif, mais ce serait toujours la première personne du singulier.